France Inter, le 18-20.
Taxer les GAFA, les géants du numérique, est-ce que cela relève de la mission impossible au niveau européen? La question est posée, car pour l'instant, bien heureux, celui qui pense que les 27 réussiront à se mettre d'accord dans les années à venir. Les données du problème sont connues. En matière de fiscalité, il faut un accord unanime pour espérer trouver un terrain d'entente. Or, l'unanimité n'existe pas. L'Irlande, siège européen de Facebook, sort le carton rouge dès que l'on parle de taxes. Quant à l'Allemagne, elle n'est pas contre, mais Angela Merkel l'a rappelé cet après-midi ici à Strasbourg dans l'hémicycle. Elle souhaite d'abord une législation mondiale et si ça fonctionne pas, il faudra agir sur le plan européen. Taxer les GAFA et si finalement la question se pose, la solution provenait de l'Angleterre. Le Royaume-Uni vient en effet de décider tout seul la création sur son territoire d'une taxe des géants du numérique. Joli pied de nez aux Européens capables de trouver une solution commune pour faire rentrer l'argent dans les caisses. En tout cas, il y a urgence. On estime en effet à 600 milliards d'euros la masse d'argent qui échappe à toute forme d'imposition sur les bénéfices. Question ce soir au téléphone Sun Europe. Pourquoi ce blocage? Quelle solution pour taxer les GAFA qui se jouent des frontières fiscales? Les géants du numérique sont-ils intouchables?
Le téléphone sonne Europe. Stéphane Leneuf.
Et au 01 45 24 7000, on retrouve Gérard qui nous appelle de Paris. Bonsoir Gérard, on vous écoute.
Oui, bonsoir. Écoutez, merci de prendre ma question. C'est par rapport justement à ce sentiment qu'ils sont intouchables. Enfin, l'impression que nous en avons, nous, et je pense qu'eux-mêmes sont totalement persuadés. Parce que, alors je sais plus si c'est le Guardian ou le Monde, bref, il y avait un article selon lequel Zuckerberg a reçu convocation pour une audition simultanée par 5 parlements européens, anglo-saxons tous d'ailleurs, l'Angleterre, le Canada, l'Australie n'est pas anglo-saxon, mais anglophone, et il refuse. Il décline, il n'a pas le temps, les piscines, enfin je plaisante, mais il ne répond pas à cette convocation. Alors, c'est le mépris d'une de la démocratie déjà. Est-ce que je voulais savoir si c'est vous, Parlement européen, pour ce qui concerne l'Europe, est-ce que vous avez des moyens de coercion pour l'obliger à se présenter?
Merci Gérard, nos invités vont bien sûr vous répondre ici en plateau. Ana Gomes, bonsoir.
Bonsoir.
Député socialiste du Portugal, Charles Goerens, bonsoir.
Bonsoir.
Député du groupe libéral du Luxembourg et Alain Lamassoure, bonsoir.
Bonsoir.
Député du groupe du Parti populaire européen. Messieurs, madame, est-ce que les parlementaires européens ont de vrais pouvoirs de coercition contre les GAFA, Ana Gomes?
Non, nous n'avons pas.
Mais
nous avons un grand pouvoir de faire payer au niveau de la réputation, ceux qui ne refusent de venir ici au Parlement. C'est ce qu'on a démontré d'ailleurs quand Alain Lamassoure présidait la commission Panama Papers, LuxLeaks, sur le LuxLeaks. Oui. Et où il y a eu beaucoup de banques qui ont refusé, et une fois qu'elles ont compris qu'elles allaient payer au niveau de leur réputation de ne pas venir et qu'elles ne pourraient plus venir faire des contacts ici au Parlement européen, et ils sont venus. Même M. Zuckerberg, il est venu. Et après M. Zuckerberg, beaucoup des responsables de son organisation sont venus pour donner des explications beaucoup plus détaillées que celles qu'il n'a données devant la plénière, qui d'ailleurs était très insatisfactoire.
Alain Lamassoure, quand Mark Zuckerberg effectivement a rencontré les parlementaires européens, il est ressorti comment? Craintif? Il s'est dit, bon, finalement j'ai fait le job, j'ai pas à craindre grand-chose des parlementaires européens?
Je crois que lui, comme ses collègues, sont maintenant convaincus que le temps de l'exception fiscale des multinationales en général et du numérique en particulier, c'est fini. Et comme l'a dit Ana Gomes, les grands médias n'en ont pas parlé à l'époque parce qu'à part France Inter, aucun grand média ne s'intéresse à ce que fait le Parlement européen. Mais il y a 2 ans, nous avons convoqué, et ils sont tous venus, les dirigeants des GAFA, et pas simplement des GAFA, des autres multinationales mondiales, parce qu'à travers divers scandales qu'on appelait Offshore Leaks, LuxLeaks, Panama Papers, etc., on s'est rendu compte que non seulement les grandes multinationales numériques, mais beaucoup de multinationales d'autres secteurs, y compris des multinationales européennes, profitaient soit des différences de mode d'imposition entre les 28 États de l'Union européenne, soit de la faiblesse politique de certains États européens, pour échapper à la quasi-totalité de l'impôt pour les bénéfices qu'ils font, dans le cas des sociétés américaines, en dehors des États-Unis. Et comme le dit Ana Gomes, le Parlement européen, s'il n'a pas de pouvoir juridique en la matière, a un pouvoir considérable de diffusion d'informations et de pression politique à travers le soutien des opinions publiques sur les gouvernements, et notamment sur ceux des gouvernements qui seraient réticents.
Alors Charles Goerens, quel type de pouvoir est-ce que le Parlement européen pourrait revendiquer effectivement pour essayer de qu'on arrive à ce qu'il y ait une fiscalité commune, entre guillemets, pour taxer les GAFA finalement? Parce qu'on va le voir, hein, tout au long de cette émission, mais du côté des États, c'est très compliqué.
Bon, d'abord, le Parlement européen a un rôle d'impulsion politique, si je résume les propos de Mme Gomes et de M. Lamassoure. Ensuite, nous sommes en train de revendiquer le droit d'initiative législative. L'un des potentiels futurs présidents de l'Union européenne, Manfred Weber, a dit aujourd'hui qu'il accepterait que le Parlement européen jouisse, ne fût-ce que de façon indirecte, du droit d'initiative législative. C'est une ouverture intéressante. J'espère que les autres candidats au poste de président de la Commission en diront autant. Le Parlement européen, encore une fois, précède des événements. Il prépare un cadre politique dans lequel plus aucun gouvernement ne pourra à l'avenir échapper, renoncer à assumer sa responsabilité. Le temps est révolu. Où les uns empilent les milliards et où les autres ont de la peine à boucler leur budget pour faire tourner les hôpitaux, les écoles et construire les infrastructures. Ce temps a vécu. Nous avons besoin d'un concept clair pour ce qui est du financement de la vie publique à l'avenir. Ça ne va pas être simple, mais ce n'est pas une raison pour ne pas entamer le débat et de prendre des décisions.
Au standard, on retrouve Jean-Louis qui nous appelle des Charentes. Bonsoir Jean-Louis, on vous écoute.
Oui, bonsoir à toute l'équipe. Voilà, que les GAFA soient taxés, c'est une chose, ça serait bien. Par contre, comment expliquer que de ces sociétés, je prends par exemple l'exemple d'Amazon qui a plus de 4000 salariés, qui perçoit de l'État français, ce qu'on appelle l'aide Fillon, hein, qui est une aide sur les bas salaires jusqu'à 1,6 SMIC, qui doit représenter à peu près 400 euros par salarié et par mois. Donc ça représente plus de 10 millions d'euros apparemment, d'après mes calculs. Amazon touche aussi le crédit, le CICE. Comment on peut imaginer simplement que ces géants perçoivent des dizaines, des centaines de millions d'euros d'aide annuellement et ne payent rien du tout? Voilà ma question.
Merci à vous Jean-Louis. Alain Lamassoure.
Alors il faut distinguer deux choses. Parce que Amazon est une société qui a de très nombreuses activités et qui a des milliers de salariés en France, ce qui est une excellente chose. Pour cette activité-là, Amazon paye des impôts en France, proportionnellement aux bénéfices qu'elle fait et tenant compte de l'ensemble de ses activités françaises. En revanche, pour les activités proprement numériques, les plateformes numériques, la collecte et le traitement des données numériques, notamment des données personnelles, il n'y a pas d'imposition dans aucun pays au monde. Je dis bien dans aucun pays au monde. Et ce que les Anglais viennent de faire, vous y faisiez allusion tout à l'heure, Stéphane Leneuf, en réalité, c'est une petite taxe indirecte qui ne pèsera pas beaucoup.
450 millions d'euros quand même. Bon, ce sont les chiffres qui circulent si c'est les ça. Anglais, si les Britanniques mettent...
Mais on en reparlera à propos du projet européen. C'est une taxe indirecte. C'est pas une taxe sur les bénéfices. C'est une taxe sur les ventes. Donc qui sera payée par les consommateurs. Et si on appliquait ça à Amazon, ça serait en fait répercuté aux consommateurs qui utilisent les services d'Amazon. Et ce que le Parlement européen a proposé, vous nous posez la question, vous, Parlement européen, qu'est-ce que vous pouvez faire? Nous n'avons pas de droit juridique, mais nous pouvons proposer des idées. Et nous avons proposé d'amender un texte cadre de la Commission européenne pour harmoniser l'imposition des sociétés dans l'ensemble de l'Union européenne, dans tous les secteurs économiques. Nous avons proposé, nous, Parlement européen, de rajouter l'économie numérique, l'activité numérique, en définissant ce qu'on appelle un établissement numérique stable, qui serait le critère permettant d'imposer une entreprise qui a une activité numérique dans un pays donné, alors qu'aujourd'hui, le fisc français ne peut pas imposer Google, alors que 95% des Français utilisent Google comme moteur de recherche parce que Google n'a pas d'établissement stable. Et donc, il y a une lacune juridique à combler sans laquelle nous ne pourrons pas véritablement faire payer.
Alain Lamassoure, précision, si numérique. Effectivement ce statut d'établissement juridique stable, numérique stable, voyait le jour, ça signifierait qu'il y aurait derrière un seuil d'imposition global, unique, dans tous les pays européens ou pas?
Alors, l'objectif proposé par la Commission européenne, avec le soutien et même l'enrichissement, si je puis dire, de la proposition par le Parlement, c'est d'avoir le même système fiscal pour appliquer dans les 27 pays de l'Union européenne à toutes les entreprises, quel que soit leur secteur d'activité, quelle que soit leur taille. À partir de là, le mode de calcul du bénéfice, la définition du bénéfice imposable sera rigoureusement la même dans tous les pays. Chaque pays resterait libre d'adopter son taux. C'est exactement ce que nous faisons pour la TVA, qui est de loin le principal impôt, celui qui rapporte le plus, depuis 40 ans. Donc ça ne serait pas une révolution politique, mais ça serait extrêmement important pour la justice fiscale et pour la solidarité dans l'Union européenne.
Je vous pose la question à tous les trois. Comment les États reçoivent cette proposition du Parlement européen qui était exactement en discussion effectivement aussi avec la Commission? Anna Gomez.
Ouais, cette proposition d'ailleurs découle de ce que nous avons enquêté dans le cadre du scandale dit LuxLeaks. Panama Papers et Paradise Papers, ils ont continué d'enquêter. Et vraiment, nos gouvernements doivent prendre leurs responsabilités. Ce domaine de la fiscalité était pris comme le dernier ressort de la souveraineté nationale. Quelle souveraineté ? Si en fait on se fait avoir partout d'ailleurs, tous ces grandes
mais
multinationales.
Mais vous pensez qu'aujourd'hui, donc, parmi les gouvernements, les chefs de gouvernement, il y a une évolution, je vais dire, psychologique sur la fiscalité?
L'harmonisation fiscale est une question essentielle de réussite européenne.
Mais c'est une arlésienne, Anna Gomez. Ça fait depuis 1957 qu'on parle de l'harmonisation fiscale.
Mais maintenant, nous avons exposé à travers nos enquêtes comment ça, vraiment, c'est une question de justice fiscale, notamment entre les grandes entreprises et les petites entreprises. La Commission dit que les petites et moyennes entreprises paient plus de 30% de taxes en plus des grandes multinationales. C'est une question de compétitivité de notre économie et c'est une question, en fait, d'avoir des budgets soutenables au niveau de nos États membres et au niveau de l'Union elle-même, des ressources propres de l'Union. Donc, nous avons une solution donc de long terme qui est celle que Alain Lamassoure vient de décrire, une définition commune de la base taxable, collectable. Les États membres ne veulent pas l'envisager en ce moment. C'est pourquoi on a cette solution de court terme, disons, qui est celle proposée par la Commission pour la taxation des GAFA. Ce n'est pas assez. Pierre Moscovici le dit tout le temps, la mère de toutes les solutions pour une fiscalité juste, c'est vraiment cette base de définition imposable commune.
Charles Goerens, on dit souvent qu'on accuse souvent le Luxembourg de faire beaucoup d'optimisation fiscale, de favoriser les entreprises qui font de l'optimisation fiscale. Par rapport à la proposition dont vient parler Alain Lamassoure et qui est effectivement en discussion au Parlement européen et avec la Commission, comment est-ce qu'un État comme le Luxembourg le perçoit aujourd'hui? Ils sont dans une logique positive ou c'est stop, non, pas question?
Non, on est dans une logique positive. D'ailleurs, les dernières déclarations du ministre des Finances indiquent clairement que le Luxembourg est prêt à jouer le jeu. Il avait argué qu'il faut attendre que l'OCDE soit prête. L'OCDE sera prête en 2000. Il était prévu initialement que l'OCDE serait prête en 2021. L'Union européenne, notamment sous l'impulsion du ministre français Le Maire, voulait aller plus vite. Et finalement, on s'est accordé à dire fin 2020, on pourra, avec les vues de l'OCDE, opter pour un cadre d'imposition qui va au-delà de l'Union européenne. Ce qui serait la meilleure des choses. Non, le Luxembourg joue le jeu. Il a, sous l'effet de la crise 2008, adopté des standards qui sont acceptés communément. Ce que nous refusons, c'est une harmonisation stricte. Il faut veiller à ce que la fiscalisation, si elle reste dans le domaine de la compétition, si elle peut être vue comme un élément de la compétitivité d'un pays, il faut faire en sorte que les écarts entre les taux les plus élevés et les plus bas ne soit pas de nature à remettre en cause une concurrence saine. Donc je crois que de ce point de vue, on n'est pas l'empêcheur de tourner en rond.
On retourne au standard, au 01 45 24 7000, avec Jean-Claude qui nous appelle de Villeurbanne. Bonsoir Jean-Claude, on vous écoute.
Oui, bonsoir et merci de prendre mon appel. Oui, moi je voulais demander si, parce que là j'ai entendu beaucoup de choses qui me semblent un peu défensives, mais importantes bien entendu, c'est-à-dire appliquer une sorte de droit sur l'impôt par rapport au GAFA, mais il y aurait aussi un aspect offensif. Et c'est-à-dire, par exemple, ben, toutes ces sommes, si on lève des impôts, est-ce qu'elles pourraient pas être investies dans le développement du logiciel libre, qui est dans un certain nombre de domaines à égalité ou juste en dessous des logiciels commerciaux tels que Microsoft, ceux de Microsoft qui sont bien connus, Word, etc., pour ne pas les citer. Et donc, il y aurait déjà ce premier aspect. C'est un logiciel qui, en général, ne vous espionne pas. Donc, c'est un deuxième aspect très important. Et puis, même pour aller plus loin que ça, il y a une sorte d'admiration devant les GAFA, on est un peu béat d'admiration, mais ce sont des colosses au pied d'argile. Et par exemple, pour donner un exemple, il y avait un de ces colosses qui s'appelait eBay. Et puis un beau jour en France est arrivé Le Bon Coin et terminé eBay en moins d'une année. Les gens étaient passés sur Le Bon Coin. Donc est-ce qu'il n'y a pas une initiative de ce type aussi à développer pour que on ait nos propres moteurs de recherche, etc. Je sais que ça existe, mais c'est un petit peu anémique, quoi, disons. Donc ça demanderait à être vitaminé. Voilà.
Merci Jean-Claude. Taxer les GAFA au niveau européen pour réinvestir cet argent dans la recherche, dans le développement pour nous, Européens, la Gomez, ce serait une bonne chose quand même.
Taxer les GAFA pour investir en tout. Et bien sûr que le développement de nos propres logiciels, etc., c'est très important et on peut le faire d'ailleurs sans déjà les taxer, même déjà avec ce qu'on a. On doit le faire, c'est une question de survie. Mais je dois revenir à la question avant. Je ne suis pas du tout d'accord qu'on peut se cacher derrière cette idée, il faut s'accorder au niveau OCDE et au niveau plus large que l'Europe. Ce n'est pas raisonnable. D'ailleurs, OCDE et l'initiative BEPS, elle n'est pas contraignante.
C'est-à-dire
au niveau de l'OCDE. C'est ce que l'OCDE fait au niveau du profit sharing. Donc
série, si vous permettez, Anna, une série de recommandations, une quinzaine de recommandations sur la manière de traiter les flux internationaux multinationales. Quel pays doit taxer quoi
Mais voilà, c'est peut-être ce qu'on a de plus avancé au niveau, disons, OCDE. Mais ce n'est pas contraignant. Et donc, l'Union européenne pourrait aller de l'avant et prendre des mesures contraignantes au niveau de l'Union européenne qui auraient certainement des retentissements mondiaux, globaux. Et d'ailleurs, l'Union européenne pourrait demander à l'ONU, à M. Guterres, de promouvoir cette initiative. Malheureusement, c'était l'Union européenne, les pays de l'Union européenne, qu'en 2015, quand, par exemple, les pays en développement, africains notamment, et ACP, ont voulu, dans le sommet ACP, poser cette question qui est aussi le contrôle des flux de capitaux qui sortent de leur pays et qui empêchent le développement dans ces pays en développement, c'était les Européens qui ont bloqué ça. Donc, c'est ridicule que l'Europe, et je viens d'écouter aujourd'hui Madame Merkel s'excuser avec ça, ce n'est pas acceptable qu'ils continuent, nos gouvernements, à se cacher derrière cette excuse. Elle n'est pas raisonnable. Ils ne veulent pas faire ce qu'il faut absolument faire pour la justice fiscale et pour qu'on ne continue pas à laisser toute opportunité, notamment pour la fuite fiscale, pour la criminalité financière, pour le blanchiment d'argent qui passe par les paradis fiscaux, etc., et tous ces manquements de régulation au niveau européen.
Alain Lamassoure, vous déplorez ce manque de vraie volonté politique pour faire avancer les choses ?
Oui, je le déplore, d'autant que nous avions l'espoir l'année dernière que nous arriverions à une solution parce qu'il y avait un accord des quatre grands pays européens pour faire avancer ce projet de cadre fiscal commun européen.
Qu'est-ce qui a capoté alors du coup ?
Le changement de gouvernement en Allemagne. Le précédent gouvernement et le précédent ministre des Finances,
donc
M. Schäuble...
Donc il n'y a pas de volonté d'impulsion politique au niveau de l'Allemagne.
Dans la nouvelle grande coalition allemande, manifestement, c'est un sujet sur lequel ils ne veulent pas avancer. Et jusqu'à présent, nous sommes bloqués. Mais à partir du moment où l'Allemagne changerait de position, ce qui reste possible, puisque le sujet sera au sommet européen de décembre... À ce moment-là, je crois que tous les autres pays européens seront politiquement obligés de suivre. Pourquoi ? Parce que depuis les scandales, il y a eu les scandales, bon, les 500 millions de citoyens européens ont compris une chose simple, c'est qu'alors qu'eux sont de bons contribuables, à titre personnel ou à titre de petite moyenne entreprise, certaines des plus grandes entreprises mondiales, pas simplement les GAFA, pas simplement le numérique, pas simplement les méchants américains, y compris des Européens, y compris des Français, se débrouillent pour ne rien payer. Et ça, c'est inacceptable. Alors, à partir du moment où il y aurait un accord franco-allemand et des autres grands pays, je crois que tous les autres suivraient. Charles Goerens a raison de dire que le Luxembourg, qui n'a pas toujours été un bon élève dans le passé, personne le gouvernement actuel a fait de gros efforts. Et nos amis irlandais, nous les entendons s'opposer.
Ils ont beaucoup de mal à faire des efforts, les Irlandais.
Ils ont de mal à faire les efforts, mais dans cette période de Brexit, je ne vois pas, parler de manière un peu brutale, je ne vois pas les Irlandais mettre un veto et s'opposer à un tel progrès européen.
Ça veut dire que tout est négociable.
Et donc, s'il y a une volonté forte,
si je vous suis bien
Paris, Berlin, Lamassou, tout le monde suit.
Si je vous suis bien la Lamassou, Ana Gomes, c'est-à-dire que tout est négociable en quelque sorte.
Non, et l'Irlande devra suivre, absolument. Parce que, déjà, quand la commissaire Verhofstadt a demandé à l'Irlande, suite à nos travaux ici, dans la commission d'enquête présidée par Alain Lamassou sur le LuxLeaks, d'aller rattraper l'argent que l'Irlande avait fait épargner à Apple. Et le premier réflexe du gouvernement irlandais, c'était de dire par question. Mais après, ils ont été obligés et ils ont rattrapé quelque chose comme 13 milliards d'euros.
13
pour
milliards
les
d'euros,
contribuables irlandais, c'était une honte que l'Irlande ait refusé de faire ce que la Commission
prenait de faire. Et donc, à votre question initiale, est-ce que les GAFA sont intouchables? Eh bien non.
C'était la question de Jean-Louis au début de cette émission.
13 milliards d'euros, rien que pour Apple, rien qu'en Irlande.
Charles Goerens. Charles Goerens, vous voulez rajouter quelque chose et retourner au standard.
On peut déplorer, bien entendu, le caractère peu contraignant des décisions qui sont prises au niveau de l'OCDE. Néanmoins, et je crois que c'est ça, c'est ce qui explique aussi la relative réserve exprimée par l'Allemagne. Il faut aussi essayer au moins d'avoir les Américains à bord. Or, l'OCDE est la tribune qui permet aux Européens de rencontrer les Américains dans ce forum. Ne pas le faire serait quand même se priver d'une occasion pour mettre devant leurs responsabilités les autres partenaires. Parce qu'on a un président des États-Unis qui veut retourner à l'ordre d'avant 1945, qui fait tout par terre, qui a de près ou de loin à faire au multilatéralisme.
Il semble quand même qu'aux États-Unis, on évolue aussi beaucoup par rapport à ça,
absolument.
Par rapport à la taxation des GAFA, à la crainte que les GAFA font
raison de plus, et je crois que M. Le Maire l'a accepté, de se donner une chance pour essayer ça en 2020.
Donc on essaie de négocier avec les Américains avant de prendre une décision européenne, c'est ça?
Et nous avons toujours, tous nos commissions d'enquête sont allées aux États-Unis, ont eu des contacts au niveau du congrès, etc. Et on continue de le faire. Et je crois que maintenant, avec la maison des représentants, la chambre des représentants sous le contrôle des démocrates, on a plus de chances d'aller dans cette direction. Mais il faut savoir, nous l'avons dit, nous avons découvert qu'aux États-Unis, il y a beaucoup de paradis fiscaux.
Mais madame Gomes,
le Delaware, le Wyoming, le Nevada, etc. C'est contre ça qu'il faut aussi se battre.
Dont la caractéristique principale n'est pas la prévisibilité.
Oui, mais il faut qu'on s'engage et on les engage.
Oui, exactement.
Et de toute manière, si nous prenons des décisions là-dessus, ça va avoir des retentissements partout dans le monde. On peut définir l'agenda au lieu de suivre.
19h45 sur France Inter, en direct du Parlement européen, le téléphone sonne. Europe, une question, mission impossible pour taxer les GAFA en Europe, oui ou non? On retrouve Gilles dans le Val-d'Oise au standard. Bonsoir Gilles, on vous écoute.
Oui, bonsoir, merci de prendre mon appel et merci aussi pour la qualité de vos émissions. Je vous écoute très attentivement et j'ai l'impression que vos intervenants, pour qui j'ai le plus grand respect en tant qu'élu, que vos intervenants sont en train de vous donner un bon cours de schizophrénie. J'entends dire d'un côté on peut faire beaucoup de choses et de l'autre côté on peut pas faire grand-chose. Pour raccourcir, pardonnez-moi. Cela dit, est-ce que il ne faudrait pas aussi s'interroger sur la nature des traités, de l'ensemble des traités qui ont été ratifiés et signés, qui sont assez permissifs sur les questions de fiscalité et sur les questions aussi d'échanges de marchandises, et je pense que la les capacités intellectuelles sont considérées comme étant des marchandises et donc sont échangées comme telles. Merci d'avoir pris mon appel.
Merci Gilles. Alain Lamassoure vous répond, on revient toujours au même problème, on a du mal à se mettre d'accord sur une harmonisation fiscale.
Oui,
alors, et si je suis Gilles, est-ce que...
Gilles nous taxe de schizophrénie. Nous travaillons dans le cadre des traités et des pouvoirs que nous avons. Nous, Parlement européen, nous n'avons pas de pouvoir juridique. Par contre, nous avons, avec le relais de l'opinion publique, à commencer par vous, Gilles, je pense que vous êtes tout à fait partant là-dessus, nous pouvons faire pression sur les gouvernements qui sont particulièrement sensibles à ce genre de pression politique aujourd'hui, émanant de l'ensemble de leurs électeurs, en période de campagne électorale, puisque nous allons avoir les élections européennes en...
mai 2019.
En mai 2019. Et je suis persuadé qu'en fait, nous pouvons obtenir une unanimité, comme nous le disions tout à l'heure, au sein du gouvernement, s'il y a une véritable volonté commune franco-allemande. Alors, s'interroger sur les traités, oui, bien sûr. J'ai participé moi-même à la rédaction de plusieurs traités européens. Mais si on veut agir, il faut travailler dans le cadre des traités actuels. S'il y a la volonté politique, on peut faire tout ce qu'on veut, absolument, tout ce qu'on peut en matière d'harmonisation fiscale sur la base des traités actuels. Commencer par dire « Ah ben, il faudrait d'abord s'attaquer au traité », c'est prendre 10 ans pour changer le traité et finalement ne rien faire.
Anna Gomez.
Tout à fait d'accord. En plus, je pense que ce monsieur se rapportait aussi à la question des traités commerciaux, des traités de commerce libre. Je suis socialiste portugaise, excusez-moi, mais je pense que tous ces traités de commerce libre sont des traités néolibéraux et le fait qu'ils n'incluent pas un chapitre sur justement la réglementation fiscale, c'est une honte. Une honte, et je sais pourquoi, j'ai toujours voté contre ces traités. Je n'ai rien contre le commerce, au contraire, mais prétendre que ce commerce libre est supposé régler l'investissement et ne pas régler les relations fiscales, c'est insoutenable. Et j'ai plusieurs fois interrogé la Commission là-dessus. J'espère que ça va changer, parce que c'est intolérable pour les citoyens européens qu'on continue avec ces versions mercantilistes qui, d'ailleurs, ne valent nulle part et qui n'assurent pas un minimum de justice commerciale et de justice fiscale. Parce que si on continue à avoir le dumping fiscal entre États membres, c'est même aussi au-delà de ça, c'est le marché intérieur qui est en cause. Si les États membres continuent de jouer la course au fond en matière de fiscalité avec du tax dumping, bon, à quoi bon les règles de concurrence au sein du marché intérieur? On met tout ça en cause.
Charles Goerens, si on retournera au standard.
La question est de savoir si l'Europe veut se doter des standards susceptibles de faire d'avancer dans la ligne esquissée par Madame Gomez. Je crois que si on est unis, on peut le faire. On peut peser tout notre poids, comme on pèse dans le domaine commercial, comme on pèse dans le domaine normatif pour ce qui est de la qualité des produits. L'Union européenne a quand même réussi à imposer dans ses relations commerciales ceux qui veulent exporter dans l'Europe, dans l'Union européenne, de respecter les standards. De ce point de vue, la capacité normative de l'Union européenne ne concerne pas seulement 500 millions de consommateurs et de fabricants, mais aussi le 1,3 milliard de Chinois, le 1,2 milliard d'Indiens, etc. Donc je crois que si l'Europe veut avancer, elle a réussi à le faire dans le cadre du volet économique des relations extérieures, parce que là, on décide par majorité qualifiée, ce qui n'est pas le cas dans les affaires fiscales. C'est dommage. Pour changer les traités basés qui gardent l'unanimité comme centre, comme moyen décisionnel, si on veut changer ça, il faut aussi l'unanimité des États membres pour le changer. Mais je crois qu'on arrivera à imposer des standards et une nouvelle démarche d'une autre façon. C'est d'ailleurs davantage basé sur des considérations relatives à la concurrence qu'on a réussi à modifier le paysage fiscal européen plus que par la pure fiscalité. Si on l'aborde sous le seul angle de la fiscalité, on n'avance pas. Par contre, Mme Vestergaard a réussi quand même à faire bouger les lignes.
On retrouve au standard Laurence qui nous appelle de Grenoble. Bonsoir Laurence, on vous écoute.
Oui, bonsoir, merci de prendre ma question. Je voulais savoir où en était l'idée de taxer les multinationales selon le chiffre d'affaires réalisé dans chaque pays.
Merci Laurence Alalamassou.
Alors, ça c'est l'idée française. C'est l'idée qu'a lancée le président Macron il y a maintenant un peu plus d'un an, et qui consiste à dire, comme on risque de mettre pas mal de temps pour se mettre d'accord sur un système d'imposition des bénéfices des GAFA, commençons par une imposition qui est plus simple à mettre au point techniquement, et sans doute plus facile à négocier politiquement, au moins difficile, par une taxe sur le chiffre d'affaires. Et personnellement, je regrette un peu que depuis un an, à la fois les fonctionnaires, les politiques, les ministres se soient concentrés sur cette proposition, parce que ça revient à un impôt de faible taux, on parle de 3%, qui serait non pas d'ailleurs sur le chiffre d'affaires, mais sur certains éléments de recettes commerciales de certaines plateformes numériques, donc la mise à disposition d'espaces publicitaires, la transmission de données ou la mise à disposition de certaines interfaces. Et ça serait d'emblée conçu comme provisoire avec une date limite d'application. Après un an de négociations compliquées et après ce forcing que fait actuellement la France pour convaincre Berlin dont on parlait tout à l'heure, la montagne accouche d'une souris qui rapporte quelques milliards d'euros par an et dont en fait les GAFA pourront transmettre le coût réel à leurs clients puisque c'est une taxe indirecte. Je crois que ça serait dommage. Et je regrette que la France et le nouveau président français n'aient pas mis toute sa capacité d'influence politique qu'il a eue immédiatement après son élection dans l'ensemble de l'Europe, d'emblée sur le système que tout le monde admet, y compris le gouvernement français, être le système définitif dont nous avons parlé, définir ce qu'est un bénéfice imposable et taxer le bénéfice imposable réellement payé par les GAFA, comme par les autres multinationales.
Anna Gomez.
Tout à fait d'accord avec ce que Alain Lamassoure vient de dire.
Charles Guérin, vous voulez rajouter quelque chose?
Oui, je suis d'accord qu'on ne peut pas quand même considérer que les GAFA, qui ont la tête des personnes qui empilent les milliards, disais-je dans mes propos introductifs, fassent abstraction de toute responsabilité vis-à-vis du citoyen. Et si on les taxe un peu, ça ne veut pas dire qu'ils vont devenir des cas sociaux, hein. Ils ne vont pas vivre dans la misère si on redistribue un peu d'argent. Parce qu'il est quand même difficile d'expliquer aux citoyens européens qui payent les frais générés par la crise 2008. C'est l'épargnant qui paye, hein, du fait qu'il ne touche plus d'intérêt sur son épargne. C'est lui qui paye ça. Lui expliquer que d'autres qui empilent les milliards ne payent rien, ça, c'est un no-go, hein. C'est plus possible d'expliquer ça à l'opinion publique.
C'est immoral et c'est dangereux. Parce qu'on les fait devenir très forts, même au niveau de intimider des gouvernements, notamment des pays plus faibles. Donc c'est vraiment crucial aussi pour des questions de contrôle démocratique.
Moi, je suis libéral, je suis pour une imposition raisonnable, et l'imposition ne peut être raisonnable que si tout le monde paye ses impôts.
J'ai une Absolument. Question sur Internet de Pierre qui est dans les Yvelines. Il pose une question très intéressante. Quels sont les rapports de force qu'on est capable de créer, d'imposer vis-à-vis de ces sociétés aujourd'hui? On en a parlé d'un point de vue juridique et politique, mais quel est le vrai rapport de force qu'aujourd'hui on peut imposer, Alain Lamassoure?
Bah écoutez, je vous donne un exemple concret. Nous évoquions tout à l'heure le fait que nous avons pu convoquer et faire venir pour des débats publics devant le Parlement européen une vingtaine de multinationales, à la fois américaines, européennes, toutes les GAFA, les plus grandes banques, mais pas seulement. Et à l'époque, le grand débat, c'était est-ce que nous allons adopter une loi européenne pour rendre obligatoire la publication par les filiales de toutes les multinationales qui se trouvent dans les pays européens de la totalité de leurs résultats économiques, alors leurs bénéfices naturellement, leur chiffre d'affaires, leur personnel et la répartition géographique, etc. J'ai posé la question environ un tiers des représentants des multinationales présents ont dit « mais moi ça ne me pose pas de problème et donc si vous rendez ça obligatoire, je vais le faire ». Certains ont même dit « nous le faisons déjà ». Alors prenons le cas des smartphones. Il y a deux grands producteurs, bon, il y a le chinois maintenant, mais disons deux grands producteurs rivaux de smartphones. D'un côté Apple, de l'autre côté Samsung. Il suffit qu'Apple dise « moi je le fais ». Samsung, pour des raisons commerciales, est totalement obligé de le faire. Donc si vous voulez, les gens, malheureusement le monde étant ce qu'il est, ne sont pas vertueux par tempérament. Une entreprise n'est pas vertueuse en l'ayant mis dans ses statuts, mais elle est vertueuse si ses consommateurs l'obligent à être vertueux. Le diesel disparaîtra assez rapidement, même si nous n'adoptons pas de réglementation européenne dans ce sens, parce que les consommateurs ne veulent plus polluer.
Alors justement,
et être
question,
pollués.
Question de Boris rapidement, sera la dernière question sur Internet. Dans quelle mesure nos achats, ça touche les consommateurs, encouragent finalement les pratiques d'optimisation fiscale et d'évasion fiscale? Anna Gomez.
Justement, je pense que c'est ça qu'il faut absolument combattre, parce qu'en plus, ça ouvre des trous noirs aussi pour la criminalité, la grande criminalité, y compris le financement du terrorisme. Donc, on ne peut pas continuer à le permettre. Et c'est pourquoi il nous faut
mais
de la volonté politique.
Mais l'acte de consommation,
politique.
Est-ce qu'il encourage finalement l'évasion fiscale? Charles Goerens.
Non, je ne crois pas.
Anna Gomez et Charles Goerens.
Un chef d'entreprise, en Europe, aux États-Unis, il est légaliste. S'il ne l'est pas, il ne fera pas long feu. Donc s'il est légaliste, il faut voir si les lois qui sont en vigueur sont suffisantes. Si on impose d'autres lois, du fait qu'il est légaliste, il respectera aussi les autres lois. Donc c'est à nous de faire en sorte qu'il y ait un cadre dans lequel l'Europe d'abord, les autres ensuite, définissent des règles qui sont plus acceptables par l'opinion publique et aussi plus juteuses pour nos budgets.
Anna Gomez, 30 secondes pour conclure.
La transparence est une exigence des citoyens. Consommateurs, certainement, mais avant tout citoyens. Donc, ça ne va plus, l'idée que les schémas de fiscalité peuvent vivre
tout,
de leur
entreprise. Faut tout refondre, on a compris que maintenant, il va falloir quand même se mettre
et
à faire de l'harmonisation fiscale.
Le journaliste d'investigation.
Merci à tous pour avoir participé à cette émission. Ici, à la réalisation technique, Jean-Christophe Pécheur, Joseph Foster, Sarah Tanguy et Jürgen Schmitt. Et à Paris, réalisation Lauriane Tolémon, assistée d'Amélie Stadelmann. Dans quelques instants, il sera 20h sur France Inter.